Vous avez un premier verset sur l'écran, on va chercher dans Matthieu. On va parler aujourd'hui de l'Église, ou la doctrine de l'ecclésiologie. Donc quand on parle doctrine, souvent on a peur, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas trop compliqué. Mais c'est bien des fois de mettre au point nos idées, et surtout par rapport à des choses qui nous paraissent si banales, que si je posais la question « qu'est-ce que l'Église ? Quel est l'objectif de l'Église ? Combien de temps l'Église existe ? » etc. Je suis sûr qu'on répondra tous. Non ? Bon. On va commencer dans Matthieu 16, versets 18 à 19, qui est, on va dire, la pierre, hein, puisqu'on parle de pierre là-dedans et qui est très mal tournée chez les catholiques, mais là, il est dit « Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur ce roc, donc sur l'apôtre Pierre qui va prendre la suite, hein, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus prophétise là la création de l'église. On va aller un peu plus loin, plus intéressant, dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens chapitre 12, et on va lire les versets 12 à 31. Corinthiens chapitre 12, je vais laisser le temps à chacun de trouver. Versets 12 à 31. C'est dans le Nouveau Testament. Je vais lire. Alors, verset 12. Car comme le corps est un, il y a plusieurs membres. Comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait le droit ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne pourra pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Et bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins décents reçoivent les plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, hein, deuxièmement des prophètes non plus, troisièmement des docteurs, ceux qui ont le don des miracles, pour ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues, certains des dons n'existent plus aujourd'hui. Hein. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue. Tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence, et ça sera l'amour dans le chapitre 13. On va rester sur l'Église aujourd'hui. J'ai envie de parler de l'Église parce qu'aujourd'hui, quand on essaie de parler d'Église, il y a tellement de choses qui existent, et le terme Église veut dire beaucoup de choses. Il y a déjà beaucoup de mouvements, et celui qui commence à naître de nouveau et qui devient chrétien, il arrive là dans une ribambelle d'églises. Il y en a je ne sais pas combien de mouvements. Aujourd'hui, on a des églises qui sont plutôt des concerts. J'ai rien contre la musique, j'aime, mais quand même, ce n'est pas l'église. On a des églises pour les drogués. Vous allez aux États-Unis, vous avez envie de fumer un joint, vous pouvez y aller, hein, ça vous intéresse. Et des églises pour les homosexuels, il y a des églises pour tout maintenant. Donc c'est à la carte, on pourrait dire. Et quelque part, j'ai envie de dire, le diable a créé sa propre église aussi, ou même plusieurs églises. Alors, qu'est-ce que l'Église ? Parce que si on se pose la question, il faut aller chercher où ? La définition de l'Église, vous la cherchez où ? Sur Internet ? Ben, dans la Bible, hein, et dans la Bible, il y a beaucoup de choses sur la définition de l'Église. Et surtout, il y a une chose qu'il faut se souvenir, c'est l'idée de qui, l'Église ? C'est le pasteur, un jour, il s'est dit, tiens, si j'allais faire une Église ? C'est qui a eu cette idée ? C'est Dieu. Donc, si c'est lui qui a eu l'idée, à nous de respecter son idée et de suivre tout simplement ses principes, ses intentions et aussi ses règles. On va parler aujourd'hui, première partie de l'Église, on verra un peu plus en pratique la semaine prochaine, mais j'aimerais qu'on apprenne à d'abord connaître ce qu'est l'Église, parce que ça serait intéressant, et surtout de l'apprécier, cette Église-là. Alors, trois choses, hein, la définition de l'Église, ensuite une deuxième chose, qu'est-ce que l'Église, et puis et son organisation, et puis son autonomie. Définissez l'Église. Vous avez un synonyme ?
Corps.
Vous faites travailler un peu ce matin.
Assemblée,
culte, corps.
Les personnes qui y sont.
Ouais. Pas évident, hein ? Si quelqu'un vous posait la question dans la rue. Hein. Alors le mot Église, d'abord, si on est dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on trouve l'Église dans l'Ancien Testament ?
Non.
Jamais. Il y en a qui y arrivent à le trouver, mais la Bible ne parle pas d'Église. On parlait de Kaal en hébreu, c'est une assemblée, l'assemblée de toutes sortes d'hommes, mais aussi dans le sens religieux. On s'assemblait pour aller louer Dieu, par exemple, au temple ou ailleurs. Mais on ne parlait jamais d'Église. Hein. On allait au temple parce qu'on était encore sous la loi. C'est une autre ère ou une autre dispensation. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce terme. Mais dans le Nouveau Testament, on trouve ce mot « Église », qui est en fait un mot grec, qui est « ecclesia ». Et dans « ecclesia », il y a deux mots. Il y a « ek », c'est une particule qui veut dire « hors d'eux ». Hein. Ecclésis, qui vient du verbe kaléo, vous retenez ça par cœur, vous aurez l'interrogation la semaine prochaine, qui veut dire appeler. En fait, quand on dit église, ça veut dire vous êtes appelé hors d'eux. D'accord ? Une église, c'est quelqu'un qui est appelé hors d'eux. Et on est appelé hors du monde, tout simplement. Si je fais partie de l'église, je ne fais plus partie du monde. Je suis appelé hors d'eux. Ça, c'est la vraie définition. Après, le culte et tout ça, ça fait partie de l'église. Mais la vraie définition, c'est que moi, je ne fais plus partie du monde. Si j'ai intégré l'église, tout simplement. Et c'est important, cette définition, hein, parce que ça recadre un peu ce qu'est l'église. Puisque l'église devient de plus en plus mondaine aujourd'hui, donc ils ne sont pas hors d'eux, ils sont dedans, carrément. On s'intéresse rapidement à l'origine et à l'intégration. Hein. L'intention de Dieu par rapport à l'église, c'est lui qui l'a voulu, on l'a dit tout à l'heure, et il a quand même payé le prix cher, puisqu'il a offert son fils sur la croix, d'abord pour notre péché, pour le régler, mais aussi ensuite pour régler tous ces gens qui sont convertis, qu'ils puissent vivre ensemble dans l'Église. Donc, c'est très important, l'Église. Et ça ne doit pas être quelque chose qui est pris à la légère dans ma vie. Mais l'Église est aussi la propriété de Dieu. Elle est à lui, elle n'est pas à moi. Moi, je peux partir demain, je serai content, je sais, mais l'Église, elle appartient à Dieu. Personne n'a dit, c'est bien, ça va. L'Église est sa propriété et tous les chrétiens, tous ceux qui sont nés de nouveau, forment un peuple là maintenant et qui lui appartiennent. On ne s'appartient plus à nous-mêmes, à ce qui paraît dans la Bible. On appartient à Dieu, si je suis chrétien. L'Église est née, alors d'abord parce que Jésus l'a prophétisé, on l'a vu tout à l'heure dans Pierre, il a dit à cet apôtre Pierre qu'à partir de toi, l'Église va grandir. Hein. Et puis elle est née à la Pentecôte, vous le savez très bien, au moment où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Et heureusement qu'il y a eu cette effusion du Saint-Esprit. Jésus l'avait promis, hein, bien avant que cela arriverait, parce que sans le Saint-Esprit, personne ne serait là aujourd'hui. Essayez de bâtir votre église sans Dieu, quelque part, vous n'y arriverez pas. Il y en a qui le font, mais ça donne des sectes. Hein. Dans Actes 1, 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà la mission qui était donnée aux apôtres au départ, et cette église qui va se bâtir le jour de la Pentecôte. Si nous n'avions pas le Saint-Esprit, nous ne pourrions rien faire, ni nos dons, ni construire cette église. C'est pour ça que c'est bien des fois de s'arrêter et de se dire qu'est-ce que je suis, de ne pas se dire justement qu'est-ce que je suis un bon chrétien, qu'est-ce que je travaille bien dans l'église, qu'est-ce que je prêche bien, qu'est-ce que je chante bien, je ne sais pas quoi. Hein. Tout ça, c'est grâce à Dieu et à son esprit. Finalement, en se souvenant d'où vient l'Église et comment on l'a intégrée, ça nous rend humbles, tout simplement. L'Église, c'est la communauté de tous les croyants qui ont eu d'abord une conviction de péché, parce que celui qui est chrétien, qui naît de nouveau, c'est d'abord quelqu'un qui est convaincu qu'il a péché. Alors, il y en a qui vont dire, « Ah, moi, j'ai jamais péché, j'ai jamais tué, j'ai jamais volé, j'ai jamais... Hein. » Oui, mais t'as menti un jour, certainement. Peut-être t'es mis en colère, une mauvaise pensée. Et à partir de ce moment-là, tu es séparé de Dieu. Et parce que tu es séparé de Dieu, tu pars pour l'enfer, tout simplement. Et la Bible dit même que tout le monde naît pécheur. Donc, t'as rien fait, t'es déjà pécheur, à cause de nos parents. Merci papa, merci maman. C'est ce qu'on appelle une double imputation. C'est pas parce que les parents nous donnent, enfin, on hérite cela de Adam et Ève, quelque part. Hein. Mais nous-mêmes, on va démontrer très vite, quand on est petit, qu'on est pécheur. Vous vous souvenez, quand vous aviez un an, vous étiez obéissant à vos parents ? Pas vraiment, hein. Mais on comprenait pas non plus. Mais il faut avoir une conviction de péché, parce que quand je suis convaincu de péché, je suis convaincu que je suis perdu, je suis convaincu que je suis jugé par Dieu, Je suis convaincu que j'ai désobéi à Dieu et je suis convaincu que j'ai besoin d'être sauvé. Eh oui, on n'a pas besoin de salut si on n'est pas convaincu qu'on est pécheur. C'est une communauté aussi de ceux qui sont rachetés par Christ, parce que le Seigneur a permis justement qu'il aille jusqu'à la croix, qu'il offre sa vie pour que nous puissions l'accepter. C'est nous qui devions mourir, mais lui l'a fait pour moi. Et quand j'accepte Christ dans ma vie, eh bien, ça change toute ma vie. Et puis une communauté qui possède la foi, alors la foi dans le péché, dans la justice de Dieu, dans l'espérance, dans l'amour de Dieu, dans tout ce que dit en fait la Bible. Mais c'est des gens qui pensent la même chose, tout simplement, enfin à peu près la même chose, parce que je pense qu'on ne pense pas toujours la même chose, mais qui se réunissent et qui marchent ensemble. Il y a deux formes d'église, je ne parle pas de type, je parle de deux formes dans l'église. Hein. D'abord, il y a l'église universelle, et je vais vous choquer, en fait, c'est l'église catholique. Regardez, qu'est-ce qu'il raconte ? En fait, catholique, ça veut dire universel. Mais on ne dit plus aujourd'hui parce que l'église catholique officielle l'a pris de ce nom. Mais cette église universelle, c'est celle qui réunit tous les chrétiens dans le monde, mais depuis la naissance de l'église jusqu'à la fin de l'église. Hein. Ça en fait du monde quand même, quelque part. Et tout cela constitue le corps de Christ, depuis la Pentecôte jusqu'à ce que Jésus enlève l'Église, pas qu'il revienne, mais jusqu'à ce qu'il enlève l'Église. C'est tous ces gens-là qui forment cette Église universelle. Ce qui est formidable avec cette Église, c'est que vous pouvez aller au Japon, en Chine, je ne sais pas où, vous rentrez dans une Église, vous rencontrerez des chrétiens, nés de nouveau, enfin j'espère en tout cas, et vous ne serez jamais perdu en fait sur la Terre. C'est bien ça, hein ? Honnêtement, si moi je n'avais pas d'Église, je n'ai pas d'amis. Ou rarement. C'est quand même formidable d'avoir cette Église, que Dieu ait pensé à ça, non ? Vous en fichez ? C'est extraordinaire d'avoir ça. Alors, c'est une famille, on va en parler, ça, c'est haut, c'est bas, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est l'Église universelle. La deuxième forme, c'est l'Église locale. Ça, c'est nous, hein, parce qu'on ne peut pas aller tous jusqu'en Chine pour aller à l'Église le dimanche matin. C'est le groupement local auquel se rattache un certain nombre de chrétiens, et je suis content que ce nombre grandit de plus en plus ici. Merci Seigneur, hein, et qu'il continue. Ils se réunissent dans un même lieu, parce qu'ils adhèrent à une foi chrétienne, parce qu'ils ont la même pensée, en tout cas, on espère. Donc, ce qu'on comprend bien, c'est que l'église locale, ou l'église en soi, ce n'est pas un bâtiment. J'avais presque envie de faire le culte dehors, parce qu'il fait tellement beau ce matin, donc le bâtiment, on s'en fiche. On pourrait quand même faire le culte. Je ne voulais pas que vous soyez trop bronzés à midi. Hein. Donc, l'église, ce n'est pas un bâtiment. On n'a pas besoin de ça. Mais merci Seigneur d'avoir ce local. C'est quand même bien quand il pleut. Hein. Mais c'est l'ensemble des chrétiens dans tout le monde entier, tout simplement. Mais on est obligé de faire cette église locale où on a besoin de se réunir parce qu'on ne peut pas faire des kilomètres non plus. Voilà en quelques mots la définition de l'église. L'église, pour moi, c'est le bon projet de Dieu pour tous ceux qui sont sauvés par grâce. Il faut de temps en temps s'arrêter de se dire, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que Dieu a imaginé là, tout simplement. Avec ses hauts, avec ses bas, hein, c'est comme dans les familles. Mais c'est quand même extraordinaire qu'on puisse se réunir. Et comme on a lu tout à l'heure dans Corinthiens, qu'il y a des faibles, il y a des forts. Il y a des gens qui aident, il y a des gens qui se font aider. Et réciproquement, on est là, une famille, des mains, des pieds. Hein, c'est formidable. Chacun a quelque chose à faire dans cette église. On verra ça un peu plus tard. Qu'est-ce que l'église ? L'église, on l'a vu tout à l'heure, c'est un corps. C'est une habitation de Dieu en esprit, nous dit Corinthiens. C'est un temple dans lequel habite l'esprit de Dieu. Et si on considère cela comme sérieux, alors on fait attention. Vous savez, autrefois, le souverain sacrificateur, quand il rentrait dans le temple, et dans la partie, le mot m'échappe, le lieu très saint, hein, il n'allait pas en souriant, à mon avis, parce que Dieu était présent. Et savait qu'il allait rencontrer Dieu. Il avait intérêt à faire gaffe. Il risquait sa vie. Aujourd'hui, on arrive dans l'église, c'est peut-être pas la même chose, mais bon, c'est l'église, donc on fait comme on a envie. Parce que vous considérez que Dieu est là, que Dieu nous voit, mon cœur, ma vie, etc. Si on vient à l'église avec ce sérieux-là, ça change ma relation avec l'église aussi, puisque je rencontre aussi Christ. Alors, on peut le rencontrer partout, on est bien d'accord, mais là, on est tous ensemble à vouloir le louer. C'est un temple qui doit être saint, comme Dieu est saint. Dans Éphésiens 2, 21, il dit... En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. On ne sera jamais saint comme Dieu, ça, c'est pas possible, mais on va essayer de faire le maximum et de vivre comme le Seigneur nous demande, tout simplement. On a vu tout à l'heure dans Philippiens que, de toute façon, si on vit dans le péché, on est malheureux. Si on a des pensées qui sont claires, qui sont bonnes, eh ben, ça nous réjouit, tout simplement. Donc, si vous voulez être heureux, hein, c'est votre problème, quelque part. Faites ce que Dieu nous demande, tout simplement. Chaque chrétien aussi, hein, nous dit la Bible, est un temple de Dieu. On n'a plus besoin d'aller au temple, on n'a plus besoin d'aller rencontrer Dieu, puisqu'il est maintenant en moi, au travers du Saint-Esprit. C'est pratique quand même, hein, quelque part. On peut parler au Seigneur directement. Il n'y a plus rien qui nous sépare, tout simplement. Mais si je suis aussi le temple de Dieu, alors attention à ce que je fais avec ce temple. Parce qu'il est là. Il voit tout. Il voit ce que mes yeux voient, il voit ce que mes oreilles entendent, etc., etc. Évidemment, on n'est pas parfait, hein, parce qu'on se met de temps en temps en colère, non ? Il n'y a que moi. Ça nous arrive tous, évidemment. On a des mauvaises pensées, mais si on a conscience que Dieu, enfin, qu'on est le temple de Dieu, toutes ces choses-là, on va tout de suite les arrêter. Ou du moins, on va demander pardon. Seigneur, on n'a pas dit qu'on ne sera plus jamais pécheur, mais il a proposé qu'on se repente et qu'on demande pardon. Et si je considère vraiment que mon corps, hein, est ce temple de Dieu, ça va changer ma façon de vivre aussi. Autrefois, je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Le jour où j'ai compris que j'en fumais le temple de Dieu, on va peut-être arrêter là. Hein. Ce n'est pas l'encens comme à l'époque dans le temple, mais voilà. Mais c'est ce qui m'a motivé, moi, justement, à arrêter de fumer à l'époque. C'est un corps qui est formé de plusieurs membres actifs. Actif. Je fais exprès pour que ça rentre dans la tête. Hein, actif. Comprenons d'abord le prix qui a été payé. Hein, Jésus est mort sur la croix, d'abord pour nos péchés, mais aussi parce qu'il nous a donné des œuvres préparées d'avance pour que nous les contemplions. Admirions ? J'entends pas le mot là. Pratiquions, ah. Ah ouais, on le sait, hein. Est-ce qu'on le fait ? Ça, c'est autre chose. Quel est mon don ? Quel est mon rôle ? Quelle est ma responsabilité dans ce travail que Dieu veut faire au travers de l'Église ? Quelle est mon assiduité aussi dans cela ? La Bible nous parle dans 1 Corinthiens 12 qu'il y a une interdépendance des membres. Et ça, je trouve ça formidable. On a besoin de tous. Vous vous sentez fort, vous vous sentez minable, vous n'êtes pas capable de rien faire. Amen. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Et puis le Seigneur a dit de toute façon qu'il a quelque chose pour vous. Donc, ce que vous pensez, c'est un mensonge, tout simplement. Vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas terrible, vous n'avez pas beaucoup de dons, c'est pas grave, mais vous avez quelque chose à faire pour le Seigneur. Autrement, vous vous mentez, tout simplement. Mais cette interdépendance fait que chacun a besoin de l'autre. Il y a des forts, il y a des faibles, il y a des faibles qui vont devenir forts, il y a des forts qui vont devenir faibles à un moment. Il ne faut pas être trop frimeur, hein, quand on est fort, ou quand on est un vieux chrétien, un vrai briscard. Ça peut nous arriver de chuter aussi. On a besoin de tout le monde, personne n'est mis de côté. Merci Seigneur que ce soit comme ça. Ça, ce n'est pas tout à fait le monde. Hein. Le monde ne fait pas vraiment la même chose. Chaque chrétien a un rôle à jouer. Vous êtes important. Vous êtes déjà rendu compte de ça ? Vous êtes important ou... Ouais, le pestard, il est peut-être important, mais encore, on va s'en passer. Hein. Les responsables de l'Église sont importants, mais moi, qui suis-je pour être important ? Ben, la Bible vous dit que vous êtes important. Maintenant, vous pouvez laisser la pensée s'envoler. Vous allez prendre le temps une fois de dire à Dieu, c'est vrai que je suis important pour toi. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Allez voir le pasteur, allez voir peut-être les responsables, poser la question à droite et à gauche, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur ? Parce qu'il nous veut actifs, je l'ai dit tout à l'heure. Chaque chrétien a un rôle et possède un ou plusieurs dons de la part du Seigneur. Ce ne sera pas forcément les mêmes durant toute la vie, mais on a quelque chose à faire dans l'Église. Une autre chose, l'Église est un peuple. Dans 1 Pierre 2, 9, il est dit... Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un corps, mais nous sommes aussi un peuple, une nation sainte, hein, comme dit Pierre, hein, qui vit, donc, et qui représente tout simplement Jésus-Christ. Pas simplement le mot, mais qui est Jésus, son amour. Si je suis chrétien et que je n'aime pas mon prochain, je ne représente pas Jésus. Jésus aime son prochain. Il aime le prochain qui est bien habillé, qui a beaucoup d'argent, mais il aime aussi celui qui est dans la rue, qui est clochard, qui a des difficultés, etc. Jésus aime tout le monde, comme il est. Il espère faire quelque chose avec ces personnes, surtout. Et la justice aussi, parce que Dieu est parfaitement juste. Et nous, des fois, hein, si on devait régler un problème dans l'Église et chacun donner son opinion... On va bien rigoler, hein, à la fin, parce que beaucoup n'auront pas forcément les paramètres bibliques pour régler la chose, hein, et on va essayer de faire avec notre propre justice. Mais à force de lire la Bible, on comprend aussi quelle est la justice de Dieu, et on va l'affiner pour nous-mêmes aussi. C'est un peuple. Un peuple, normalement, c'est des gens qui sont réunis. Enfin, il me semble, hein, quand un peuple bouge, c'est qu'ils sont ensemble. C'est pas des chrétiens qui sont isolés, parce que ça devient à la mode. Moi, je suis chrétien, je fais mon église à la maison, je prie chez moi, etc. Ça, ce n'est pas la définition du tout de la Bible. Ou les chrétiens papillons. Je ne sais pas si vous connaissez ces chrétiens papillons. Tiens, une autre église. Oh, mais ça ne me plaît pas aujourd'hui. Et je vais à une autre église. Ah, lui, il m'a regardé bizarre. Et puis, on va encore dans une autre église. Et il y a des gens qui font cela toute leur vie parce que l'église ne leur convient pas, parce que si et ça. Je vous rassure, vous ne trouverez jamais une église parfaite. Sauf la nôtre, évidemment. Le problème, c'est que je suis dedans, donc ça devient imparfait tout à l'heure. Non, il n'y aura jamais d'église parfaite parce que nous sommes des hommes, parce que nous sommes des pécheurs. On a des choses à régler, on a des choses à affiner, hein, des petits réglages comme sur la mécanique, mais elle ne sera jamais parfaite. Maintenant, on peut y tendre. On peut y tendre, hein, on peut y tendre en se pardonnant, en s'aimant et en vivant tout simplement ce que le Seigneur demande. Mais c'est un peuple. Là, j'ai une belle anecdote que j'ai trouvée dans un livre, hein, en parlant de manchots pas bêtes. Pour se protéger du froid mortel du pôle sud où il vit, le manchot empereur utilise une technique peu banale. Les manchots se serrent les uns contre les autres, exposant leur dos au froid et se relayant à intervalles réguliers, de telle sorte que les manchots situés au centre, là où il fait moins froid, prennent la place de ceux qui sont sur les bords. Ainsi regroupés, ils peuvent survivre même lorsque la tempête souffle par moins 70 degrés. Si par malheur l'un d'entre eux quittait le groupe, il serait immédiatement condamné. Dans le même ordre d'idée, un pasteur rendait visite à un de ses amis qui négligeait les réunions de son église. Comme il évoquait ce sujet, devant l'âtre où le feu dansait joyeusement, le pasteur, sans mot dire, prit le tisonnier et éloigna une des braises du foyer. Peu à peu, celle-ci se refroidit et devint noire comme le charbon, tandis que les autres rougeoyaient joyeusement. Normalement, on ne peut pas être chrétien tout seul. Ne négligeons donc pas les rendez-vous que le Seigneur nous fixe et profitons de la liberté dont nous jouissons encore dans notre pays. Les manchots, ils ne sont pas bêtes. Ben justement, c'est ça l'Église. Quand ça va bien au centre, c'est bien, mais quand ça va mal autour, on va aider, on va s'assister les uns les autres. Mais l'Église, c'est un peuple qui se réunit le plus régulièrement possible. L'Église a été donnée par Jésus-Christ, on l'a dit tout à l'heure. Elle n'est pas là juste pour faire belle, l'Église est là pour nous encourager. J'espère qu'après le culte, vous avez pris des vitamines, que vous vous sentez un peu mieux, hein, que quand vous allez à votre boulot, voir votre patron. Enfin, j'espère, en tout cas, sinon, alors, il faut me le dire. Hein. Mais ça doit nous encourager, ça nous booste, ça nous aide pour avancer avec le Seigneur. Et le fait de se voir les uns les autres aussi, ça nous fait beaucoup de bien. Vivre une foi tout seul, c'est pas possible. Essayez, vous allez vite démoraliser, et de toute façon, c'est pas le projet de Dieu, donc vous êtes dans la désobéissance. Vous péchez, tout simplement. Vivre une foi à mi-temps, ça aussi, ça n'existe pas. Seigneur, je n'avais jamais dit qu'on va vivre la foi à mi-temps. Il l'a dit, on la vit pleinement. Et ça se fait dans l'Église. Autrement, comme cette braise, vous n'allez pas forcément devenir noir, refroidi complètement, mais vous n'allez pas être bouillante, hein, comme dans Apocalypse. Vous allez être un peu, ouais, je suis un chrétien, content. Ouais. C'est triste, un chrétien comme ça. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir le sourire tout le temps bêtement, on est bien d'accord. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont des zombies, hein, et qui avancent tout doucement dans leur vie. Et c'est bien triste. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous veut bouillant. La Bible parle d'une race élue aussi, ou un peuple acquis. Nous ne sommes pas devenus chrétiens par notre volonté. Marchez un jour dans la rue, vous dites, tiens, je vais devenir chrétien. Ça, c'est pas venu comme ça. On est bien d'accord. Mais c'est Christ qui a voulu que cette Église soit, que nous naissions de nouveau, que nous comprenions que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin d'être sauvés. C'est pas ma volonté à moi. Et je peux pas, j'aime pas trop ces témoignages où on dit, moi, j'ai rencontré Christ. Tu rigoles, c'est Christ qui t'a rencontré. Bon, on comprend l'idée, on est bien d'accord. Mais soyons sûrs, c'est pas moi qui allais chercher Dieu. On l'a fait dans une religion, on l'a fait dans une philosophie, mais à un moment, c'est Dieu qui a tapoté sur l'épaule et qui m'a convaincu de ce que je suis dans ma vie. Et Dieu nous a acquis, en le disant très vite, oui, Dieu nous a acquis. Quand vous acquérez quelque chose, je sais pas si j'ai bien dit, traduit, si moi je viens vous le reprendre, qu'est-ce que vous faites ? Tu vas acheter quelque chose et je viens, écoutez, je vous le prends, qu'est-ce que vous dites ?
Tu me l'as donné, t'as compris. Tu me l'as donné.
Bah voilà, c'est acquis, une fois pour toutes. Mais nous, des fois, en tant que chrétiens, on se dit, oui, on est à demi acquis. Et des fois, on essaie de se dérober du Seigneur. Non, on est acquis, nous lui appartenons. Autrefois, on appartenait au diable, sans vraiment en prendre conscience, bien que certains le fassent, on était esclaves du diable. Maintenant, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7, 22, que nous sommes esclaves de Christ. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Des fois, on vit la vie chrétienne comme si on se disait, bon, on va vivre comme on a envie. Je suis esclave de Christ. Je sais que ça ne plaît pas à ça. Personne n'aime ça. Parce qu'on a toujours tendance à avoir l'aspect négatif de l'esclave, mais à l'époque, l'esclave, c'était des fois des instituteurs, des gens qui étaient dans des maisons aisées et qui vivaient très bien. Ils devaient payer une dette, etc. Mais aujourd'hui, j'appartiens totalement à Christ. Moi, je ne m'appartiens plus. Alors le Seigneur me permet de choisir mes chaussettes le matin, d'aller manger, d'aller travailler, mais j'appartiens à Christ. Et ça, il faut que je m'en souvienne. Je ne fais plus ce que j'ai envie, normalement. Et nous sommes des élus, hein, je ne vais pas rentrer dans l'élection, mais un élu, c'est celui qui est né de nouveau. À partir du moment qu'il est né de nouveau, l'élection est validée, on pourrait dire. Ce n'est pas Dieu qui choisit les élus à droite et à gauche, c'est la réponse de l'homme qui fait qu'on soit aussi élu. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. La Bible dit aussi que le chrétien est un sacerdoce royal. Le mot n'est peut-être pas courant pour certains. Hein. Les chrétiens sont en fait des sacrificateurs ou des prêtres. C'est là où l'Église catholique a tout détourné, parce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes prêtres. Alors on n'emploie pas ce mot parce qu'on ne veut pas faire de confusion, mais c'est ça, nous sommes des sacrificateurs. Et nous avons un sacerdoce, un rôle. Le sacerdoce fut d'abord donné au chef de famille. Là on parle dans l'Ancien Testament, il avait ce sacerdoce dans la famille. C'était le père, tout simplement, de famille. Avec la loi qui va venir, Israël va devenir un royaume de sacrificateurs. Mais, on connaît bien l'histoire d'Israël, ils vont échouer. Et Dieu va décider de donner ce sacerdoce à Aaron et les Lévites, ensuite, qui vont servir dans le temple et qui vont faire les sacrifices, etc. Mais eux aussi, quelque part, ils ont échoué. Puis, sous la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire à notre époque, dans l'Église, tous les chrétiens constituent un royaume de sacrificateurs grâce à Christ. Vous êtes sacrificateurs, on ne va pas faire des sacrifices, il a été fait une fois pour toutes à la croix, mais le Seigneur nous voit comme des gens qui travaillent dans sa maison. C'était ça, un sacrificateur, autrefois. Le chrétien acquiert le droit au sacerdoce par la nouvelle naissance. À partir du moment que je suis né de nouveau, que je deviens chrétien, je deviens aussi sacrificateur de Christ. Ça veut dire que je vais travailler pour lui, tout simplement. Ce privilège que nous avons, c'est que nous avons maintenant un libre accès auprès du Père. Autrefois, le souverain sacrificateur, on va parler du chef des sacrificateurs, c'était le seul qui pouvait entrer dans la présence de Dieu, une fois par an, pour le pardon des péchés du peuple. Mais nous, on a un libre accès à Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est pas formidable, ça ? Non ? Non, ça ne me parle pas. Tous les jours, je peux parler à Dieu. Tous les jours, je peux lui dire mes problèmes. Tous les jours, je peux crier à Dieu. M'énerver des fois, parce que... Hein, ou me réjouir, tout simplement. C'est un libre accès. Je peux être là avec le Seigneur tous les jours. Formidable. C'est un privilège. Et le chrétien qui exerce sa fonction en offrant des sacrifices, nous dit la Bible, il y a plusieurs choses. Par exemple, ils offrent son corps, c'est-à-dire une vie qui est consacrée à Dieu. J'offre ce corps en faisant ce que je peux, en ne péchant pas, en plaisant à Dieu tout simplement. Je peux offrir des louanges par mes lèvres qui confessent le nom de Jésus-Christ. Ça, le Seigneur agrée, quand on loue le Seigneur tout simplement, mais sincèrement, hein. On peut louer le Seigneur de mille et une façons et s'en fiche complètement dans le cœur. Quand on chante les cantiques, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là. Vivement que ça soit fini, ah, celui-là je n'aime pas. On peut aussi offrir un sacrifice par sa libéralité, c'est-à-dire les offrandes et l'exercice de la bienfaisance. Et on peut offrir un sacrifice aussi à Christ par son service, tout simplement. Plusieurs manières de s'offrir et de servir Dieu dans son Église. Mais ces sacrificateurs, comme à l'époque, c'était une petite usine à gaz, ça marchait dans tous les sens, ça travaillait, pas toujours bien, mais bon, ils travaillaient, ils étaient au service de Dieu, ils étaient actifs et ils étaient vus de Dieu. Dieu sait exactement où j'en suis, ce que je fais et ce que je ne fais pas, aussi, pour lui. Après, ça c'est chacun dans sa conscience. Et l'Église est aussi une famille, c'est un peuple, c'est une nation, mais c'est aussi une famille. Les chrétiens, des gens de la maison de Dieu, dans Éphésiens 2, 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Faites partie d'une famille. Vous êtes ma famille. Eh bien, j'en ai des frères et sœurs. Eh oui, et en plus, vous imaginez que tous les autres chrétiens sont aussi vos frères. Et ça, ça en fait une sacrée famille. Mais il faudrait le considérer comme tel, parce qu'on fait partie de la maison de Dieu. C'est lui le chef, on va dire, le patron, mais on fait partie de cette maison. On n'est plus des étrangers, parce qu'autrefois, par notre péché, le Seigneur nous voyait comme cela, et il était en colère contre nous. On n'est plus des gens du dehors, mais nous sommes connus de Dieu. Moi, j'aime bien, je suis connu de Dieu. Dieu sait exactement ce qui se passe dans mon cœur, dans ma vie. Il sait même ce qui va se passer demain, les émotions, tout ce que je vais penser, mes colères, etc. Il sait déjà. Moi, pas. Curieusement. Je fais partie de cette famille et je suis connu de Dieu. Je suis enfant de Dieu, nous l'a dit la Bible. Et nous sommes frères, mes frères et sœurs qui appartiennent à Dieu. Pas à une église, pas à un pasteur, mais qui appartiennent à Dieu. Une famille vivante. Regardez avec vos yeux, là. Vivante, j'ai dit, hein, pas molle, là. Parce qu'ils se réunissent au maximum. Ils s'invitent chez soi, normalement, les uns les autres. C'est bien de s'inviter. Ils s'aiment, se pardonnent. Bon, on n'a jamais rien pardonné aux autres, ça va. Ils prient pour les autres. Ah, moi j'ai l'excuse, je ne connais pas mon voisin, donc je ne prie pas pour lui. Ben, prenez son nom tout à l'heure, pourquoi pas. Faites-vous une liste. Hein. Ce n'est pas d'excuse, on peut prier les uns pour les autres. Et puis, cette famille vivante a une communion fraternelle qui est tellement importante et dont beaucoup se privent, hélas. On se prive quand on ne vient pas à l'église. Hein. Mais c'est une communion fraternelle avec tous. Bien souvent, hélas, et surtout quand l'église grandit, il y a des petits groupes qui se forment. Ce n'est pas ça, la communion fraternelle. Hein. C'est la communauté, ça. Le Seigneur voudrait qu'on soit avec tous, les uns et les autres, prendre du temps un peu, qu'on apprenne à se connaître. Et peut-être, bah, tiens, ah ouais, bah, on a peut-être des points communs et... Si on ne parle pas avec l'autre, on ne le saura jamais. Et c'est une communion fraternelle, on s'aime les uns les autres, et c'est tellement important. Donc l'Église, c'est une belle famille, avec un Père qui est tout-puissant et qui est plein d'amour. Nos parents pouvaient nous aider dans une certaine mesure, on va dire, mais moi j'ai un papa là-bas qui peut faire ça, et il n'y a plus rien. Mais il ne va pas le faire, forcément. Mais j'ai un Père tout-puissant, et je dois en prendre conscience, que je peux aller vers le Père, que je peux lui demander de m'aider, que je peux lui demander d'apprendre à pardonner, d'apprendre à aimer le prochain, etc., etc. Il y a un Père qui est plein d'amour, qui ne vous rejettera jamais quoi que vous ayez fait. Le pire des péchés, le Seigneur est prêt à le pardonner, à condition évidemment qu'on se repente. C'est pas extraordinaire, ça? Ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi non plus, hein, en disant, ben, tout ça, il m'aime. C'est pas ça. Parce qu'après, il faut se repentir, et ça, c'est pas toujours évident. Une troisième chose, on va s'intéresser à l'organisation, je résume, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais l'organisation et l'autonomie de l'Église locale. D'abord, cette Église, elle est sous l'autorité de Dieu. Et on l'a vu tout à l'heure, Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église. Éphésiens 1, verset 20 à 23, il est dit « Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui ne peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, à Christ, hein, et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Christ est le chef, et rajoute, suprême de l'Église. Ce n'est pas un homme qui est le chef de l'Église, ou des hommes. Ce n'est pas une fédération, et ce n'est pas un pape qui est le chef de l'Église. Matthieu 23, 9 dit « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. » Quand on parle du pape, ça veut dire Père, ça veut dire qu'il est l'intermédiaire entre Dieu et nous. Et ça, ce n'est pas biblique du tout. C'est même une hérésie, une idolâtrie. Mais Christ est le chef, il est le chef de ce corps qui est l'Église, et lui seul en décide l'avenir, etc. Parce que lui, il a payé pour cette Église. Nous, on n'a jamais rien fait. On paye notre loyer, ça c'est clair, mais on ne paye pas pour le corps de Christ. Lui a offert sa vie, il a versé son sang pour que cette Église naisse. Et puis, il y a le Saint-Esprit aussi, qui a toute autorité, hein, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est lui qui distribue les dons spirituels à chacun comme il veut. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dons, et parler en langue et autres machins qui existent, et il faut apprendre à le faire, mais la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui donne à chacun comme lui, il veut, pas comme moi, je veux, d'accord? Et c'est toute la différence. Et après, c'est à nous, évidemment, de demander au Seigneur, ben, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça se fait dans la prière, hein, ça se fait pas devant la télé, ça ne va pas venir comme ça. Si on est sincère devant le Seigneur, si on a vraiment envie de le servir, eh bien, le Saint-Esprit va vous donner votre don, votre travail. Et c'est dans le but de permettre la croissance de l'Église à son bon fonctionnement, puisqu'on a besoin des uns et des autres, on a vu tout à l'heure, pour plusieurs tâches dans l'Église. Voilà la première autorité de l'Église. Et le Seigneur a voulu aussi donner une autorité aux hommes, et à l'Assemblée en particulier. Je la mets avant même le pasteur, parce que c'est elle qui possède l'autorité de l'Église locale. Je m'entends, parce que des fois on ne comprend pas, il faut être membre de l'Église locale. Ça veut dire qu'on peut venir dans l'Église en tant qu'invité, ou venir de temps en temps, mais on propose aussi de devenir membre de l'Église. C'est-à-dire que vous adhérez à la confession de foi de l'Église. Vous êtes d'accord avec ce qu'on pense, tout simplement, parce que sinon ça va devenir un vaste bazar, si chacun pense différemment. Donc c'est ce que j'appelle être membre de l'Église, hein. C'est pas urgent, hein. Pas un péché si vous ne l'êtes pas pour l'instant, on est bien d'accord. Mais si vous êtes d'accord avec ce que nous enseignons ici, ben venez me voir, il n'y a aucun problème, on va en discuter. Mais c'est ces membres-là, sous l'Assemblée Générale, bon, c'est la forme qu'aujourd'hui on voit pour les associations, mais on l'aurait aussi fait d'une certaine manière s'il n'y avait pas ce besoin-là, mais c'est l'Église locale qui a autorité sur ce qui passe dans l'Église. Ce n'est pas moi. Eh oui, on l'oublie. Et si l'Église a envie de me fiche dehors, bon, allez-y, hein. Il y a du travail ailleurs, de toute façon. Mais c'est juste pour rappeler que ce n'est pas le pasteur qui est le chef, c'est l'Église locale. Il a son rôle, on va en parler tout à l'heure. Hein. Mais pour que l'Église, avec son autorité qu'elle a, parce que des fois elle n'en comprend pas vraiment la responsabilité, si elle veut prendre des décisions, il faut qu'elle connaisse le Seigneur aussi. C'est ça le problème. Il faut qu'elle connaisse la doctrine, il faut qu'elle connaisse un certain nombre de choses, parce qu'avant de prendre une décision en Assemblée Générale, on ne va pas la prendre à la légère, on va la prendre en fonction de ce que la Bible nous dit, surtout. C'est pour ça que le Seigneur a permis aussi qu'il y ait des pasteurs, une forme d'organisation, on pourrait dire. Hein. La Bible parle d'anciens ou d'évêques, de surveillants, parce que c'est la définition, c'est les pasteurs, tout simplement. Il y a plusieurs rôles, hein, parce que normalement, il devrait y avoir plusieurs pasteurs ou évêques ou anciens dans une église, mais on n'est pas tous, on peut appeler à ça. Ça va venir avec le temps, j'espère. Et eux ont le rôle d'établir la doctrine, de bien l'enseigner, mais aussi d'avoir une attitude correcte vis-à-vis des autres, savoir aimer le prochain, quel qu'il soit. Et ça, c'est pas toujours simple. Et puis la Bible parle dans cette organisation aussi des diacres et diaconesses. On n'en parle pas souvent. C'est des gens qui sont là pour assister le pasteur, tout simplement, dans des tâches différentes, et pour servir, tout simplement, dans l'Église. Mais ce n'est pas une hiérarchie. Et ça, j'insiste. Hein. L'Église, ou l'organisation de l'Église, n'est pas une hiérarchie. Dans Philippiens 2:3, il est dit... Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et ça, c'est aussi mon rôle à moi, de regarder les autres comme étant au-dessus de moi-même ou de ma responsabilité dans l'Église. Personne n'est au-dessus des autres. C'est bien, non? Si je regarde chaque fois l'autre plus haut que moi, ben, ça revient à moi et finalement, ben, tu me regarderas pas plus haut que toi. C'est beau. Ça pousse à l'humilité. Ah oui, quand on a des responsabilités, hein, le petit orgueil, de temps en temps, il dit ah, « moi je fais bien, les autres ne font pas bien, viens. » Il y a plein de choses qui rentrent dans le cœur hein, quand on est responsable dans une église. Mais personne n'est au-dessus des autres, parce que vous avez tous, comme moi, été sauvés de nos péchés. Et ça s'est fait par Jésus-Christ. Donc on est tous sur la même ligne. Hein. Et il faut savoir rester humble, parce que si on apprend l'humilité, ça va éviter les jalousies dans l'église. Le pasteur lui parle tout le temps, hein. Pas moi, il ne téléphone jamais. Les conflits, ça existe des conflits dans l'Église, mais si je suis humble, je vais le régler, à la mesure où je peux, ou je ne vais pas le provoquer, ce qui est encore mieux. Les divisions, et ça, vous savez, les églises, ça se divise très vite, hein. Ça peut aller très vite. Mais si elles sont humbles, prêtes à prendre le temps de discuter sur leurs différends, prends le temps. Et dans la prière, avec le Seigneur, je suis sûr qu'à un moment, on peut recolmater toutes ces choses-là, mais... Ça dépend de mon orgueil, tout simplement. Ou alors, il y a des prises de pouvoir par des hommes qui ont envie d'être le pasteur ou d'être le chef dans l'Église parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Bon, ça existe. Hein. C'est pas une hiérarchie, on est tous sur le même niveau. Et ça, c'est formidable. Moi, je trouve que c'est bien. Même si chacun a des responsabilités différentes auxquelles il faudra rendre compte à Dieu, parce que je devrais rendre des comptes, que vous n'avez pas à rendre compte, vous, hein, mais on est tous pareils. Et puis, la Bible nous parle de l'autonomie aussi de l'Église locale. Elle est totalement autonome, d'abord spirituellement, puisque je l'ai dit, elle gère ses propres affaires, elle règle ses conflits avec l'aide du Seigneur. Je n'ai pas besoin d'aller demander à quelqu'un, sauf des fois, on peut aller demander de l'aide éventuellement, ou des conseils, mais ce n'est pas l'église de, je ne sais pas, là-bas, qui vont venir chez moi et vont dire, voilà, on va vous aider à gérer votre problème. Non, on ne va pas appeler, hein, je ne t'ai pas demandé. Si on n'y arrive pas, éventuellement, on va aller te demander, mais pour l'instant, on se débrouille tout seul. Et pour ça, évidemment, il faudrait de la sagesse. Beaucoup de sagesse. Elle est aussi autonome financièrement, puisqu'elle vit de ses offrandes, pour soutenir, la Bible dit, le pasteur dans la mesure où elle peut, hein, mais aussi pour tous les besoins. C'est bien hein, l'électricité, c'est bien toutes ces choses-là, ça coûte. Hein. Sinon, on va aller dans les bois. Hein. Moi, je veux bien. Mais on est quand même mieux ici. Donc elle est autonome, c'est elle qui se gère elle-même. On peut recevoir des dons, évidemment, évidemment on peut être soutenu par quelqu'un, mais normalement elle se gère toute seule. Elle est autonome aussi par rapport à l'État, parce que l'Église est séparée de l'État totalement. Si Madame la maire me propose un jour de me donner un peu d'argent pour acheter le bâtiment et tout ça, je dirais non. Parce qu'elle va revenir un jour en me disant « Ah, vous vous souvenez que je vous ai demandé quelque chose ?» Non. On est autonome. Et on a bien vu ce que ça a donné au début. Hein, quand avec Constantin, il a permis que l'Église et l'État soient ensemble, c'est devenu n'importe quoi, en fait. Donc elle est séparée de l'État par rapport à leurs principes. On respecte hein, les principes de notre État. Et sa morale, on ne respecte pas forcément tout. En tout cas, on n'est pas d'accord avec tout. Elle obéit aux lois, nous dit la Bible, sauf si, évidemment, les principes qu'elle nous propose s'opposent à Dieu. Un jour, peut-être, il y aura des homosexuels qui vont venir ici et vont demander la bénédiction. Je dirai non. J'aime les oranges. Mais j'irai en prison, ça ne me gêne pas. Mais je dirai non à ça. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ces personnes-là, loin de là, au contraire. Moi, je les accueille avec joie. Mais je ne peux pas le faire, puisque la Bible m'interdit de le faire, tout simplement. J'espère que vous viendrez visiter en prison, quand même. Hein. On va voir ça. Ça explique. Relation avec les autres églises locales aussi, parce que ça, on peut se poser la question, qu'est-ce que je peux faire avec les autres ? Les relations, moi, je pense qu'ils sont basées sur la compatibilité de la confession de foi. Qu'est-ce que tu penses de Dieu ? Okay ? Qu'est-ce que tu penses de Jésus ? Qu'est-ce que tu penses de l'eschatologie ? Alors, bon, regardez, c'est quoi ce truc-là ? C'est la doctrine des choses à venir. Qu'est-ce que tu penses du Saint-Esprit ? Surtout aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses du ministère féminin ? Si tu es d'accord avec moi, il n'y a pas de problème, on va travailler ensemble. Mais si on n'est pas d'accord et qu'on se met à travailler ensemble, on va se taper dessus. Donc, par amour pour toi, c'est pas, je te déteste, c'est par amour pour toi, je préfère qu'on se sépare, ça ne sert à rien. On va prier les uns pour les autres, on s'aime, mais on ne va pas se disputer. Si tu as une conviction là-dedans, je ne peux pas te la changer, moi je ne peux pas la changer chez moi non plus. Donc, on travaille, on a une pastorale avec une dizaine d'églises qui ont quasiment la même confession de foi, et ça nous permet d'être en harmonie. Vous savez, les pasteurs entre eux, ils sont toujours d'accord sur les détails, hein, mais bon, il ne faut pas le dire. Ne pas travailler avec toutes les églises, ça ne veut pas dire qu'on déteste les autres chrétiens. Je connais des pentecôtistes avec qui j'ai prié, que j'aime beaucoup, qui ont une vraie foi. Hein. Mais à un moment, dans la doctrine, il va y avoir un problème, et là, je ne peux pas aller plus loin avec toi. Hein. Souvent, et c'est un peu le communisme aujourd'hui, on va dire « oui, oui, bon d'accord, mais le Seigneur nous apprend à nous aimer les uns les autres, donc on va d'abord s'aimer, et puis la doctrine, on verra demain ». C'est ce qui est en train de grandir de plus en plus dans le monde, ce qu'on appelle l'œcuménisme. Et les catholiques se rapprochent des protestants. Les évangéliques se rapprochent des catholiques. Et même le CNEF, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce qui représente les protestants en France, c'est rapprocher des catholiques. Tout se mélange au nom de l'amour. Et la Bible, à la fin, on s'en fiche. Mais ça, ce n'est pas du tout biblique. On peut aimer le prochain tout en gardant sa doctrine. Mais on ne va pas travailler ensemble, tout simplement. Je ne vais pas faire ce que toi tu fais, que je considère être un péché, tout simplement. L'église locale, par contre, et on a plusieurs exemples dans la Bible, peut aider ces églises sœurs. À l'époque, il y avait un tremblement de terre, et puis des offrandes étaient récoltées pour aller aider ces gens-là. Si on sait qu'une église est dans le besoin, ou a besoin d'un local, si on est riche, ce n'est pas le cas pour l'instant, mais un jour, on ne sait jamais, on peut pourquoi pas aider ces gens-là. Hein. On n'est pas dans notre église, et on va pas voir les autres églises, c'est pas ça. Hein. On peut aider les autres, dans un but de témoignage, d'amour, tout simplement. Est-ce que l'église peut se fédérer ? Grande question, mais pour moi, elle est autonome. Si elle a envie de se fédérer, de toute façon, la fédération n'a aucun impact sur notre Église. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je pense qu'il est quand même préférable qu'elle reste indépendante et autonome. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'intéresse pas à ce qui se passe autour d'elle, mais on va éviter les risques. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc l'Église est obéissante à son chef, qui est Christ, d'abord. Elle est organisée. Ce n'est pas un truc où on vient, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Elle est organisée. Comme Dieu est organisé, et Dieu il est bien organisé, est-ce qu'il est bien discipliné? Il est à l'heure? Ah oui, il est à l'heure, pour vous en tout cas, etc., etc. Il est autonome, cette Église est autonome aussi dans son fonctionnement, et on gère notre Église comme nous voulons, enfin, surtout comme la Bible le demande, tout simplement. Pour terminer, j'ai déjà dit, mais quelle belle idée que l'Église. C'est beau, non? C'est merveilleux? Vous souriez un petit peu, là. C'est une tête, là. C'est beau, la doctrine, quelque part. Ça nous rappelle qu'on a une famille, quelque part. C'est une réunion de graciers. Vous tous, je pense, la plupart, vous étiez condamnés à mort. L'échafaud, ça vous parle ? À cause de nos péchés. Et on peut tous dire là, merci Seigneur que tu nous as graciés, nous a pardonnés. Et en plus, il nous a donné une espérance, c'est un jour d'être avec lui pour l'éternité. Et ça, chaque fois que je viens à l'église, ça doit être dans un coin de la tête, me rappeler que je suis gracié. Merci Seigneur, merci de pouvoir être sauvé. C'est une famille avec un père merveilleux, on l'a dit tout à l'heure, et on pourrait dire des tonnes et des tonnes de choses. Un sauveur qui nous soutient chaque jour, quelqu'un qui nous encourage, qui nous pardonne, qui nous aime comme personne ne nous a jamais aimé. Alors il faut évidemment se laisser aimer, hein, parce que sinon je ne connaîtrai pas l'amour de Dieu. C'est aussi une famille, comme on l'a dit, avec des frères, des sœurs qui sont pleins d'amour les uns pour les autres. C'est tellement rare dans le monde de pouvoir être aimé, alors que là nous pouvons nous aimer les uns les autres. Or, vous avez compris, on n'a plus envie de se priver de l'église, avec tout ça. Et surtout moi j'ai envie de dire, moi j'ai envie de voir ma famille le plus souvent possible. Et comme c'est vous, à vous de réfléchir. On va prier. Seigneur, avant même de parler de l'Église, nous voulons nous souvenir que tu as quitté ton ciel de gloire. Tu n'étais pas obligé. Tu étais servi par les anges. Tu étais glorieux, Seigneur, et tu as accepté de quitter tout cela pour devenir un homme, un serviteur, qui savait qu'il allait mourir sur cette croix, alors qu'il ne la méritait absolument pas. Tu l'as fait parce que tu nous aimes, Seigneur, parce que tu nous as tant aimés, comme dit ta parole. Et tu as aussi eu l'idée d'envoyer ton esprit et de créer cette Église, Seigneur, cette famille, ce peuple, cette nation, Seigneur, qui veut t'honorer, qui veut te servir, qui veut marcher fidèlement avec toi. Seigneur, tu sais où on en est dans cette relation avec cette Église, et je te demande de nous rendre chacun bouillant, non pas légaliste, mais bouillant, Seigneur, pour toi, pour marcher avec toi, pour te rendre gloire comme tu le mérites, Seigneur. Nous avons aussi vu que nous avons un rôle, chacun dans cette Église, que nous sentions petits ou grands, nous avons quelque chose à faire pour toi, et je te prie de nous aider dans ce domaine-là, Seigneur. Aide-nous à nous aimer les uns les autres pour conserver la paix, la joie dans cette Église et pour simplement t'honorer toi chaque jour. Seigneur, fais aussi que cette Église soit un témoignage et qu'elle puisse briller, pas le dimanche matin, mais sur le lieu du travail, dans la famille, avec les amis, et que d'autres puissent découvrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ et qu'eux-mêmes aussi puissent se repentir et pourquoi pas adhérer ensuite à l'Église. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Encourage-nous encore ce matin, en Jésus-Christ. Amen.
Amen.